11h04, c'est dans le ton. Écoute, on en a parlé, on va revenir là-dessus. Juste vous rappeler que ce matin, on vient d'annoncer, je vois ça à l'instant, là, 188 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, dont deux décès. Ça fait plusieurs jours qu'on se maintient. Là, c'est un peu en bas des 200, mais c'est un nombre là, qui se maintient depuis minimum une semaine, là, autour de 200 cas. Donc, c'est 188 nouveaux cas aujourd'hui et deux décès qui viennent d'être confirmés dans le tout nouveau bilan. Un peu plus tôt ce matin, à 8h30 ce matin, le premier ministre François Legault qui a annoncé qu'à compter de samedi, dans les zones jaunes, on va donner des amendes. On va commencer à donner des amendes aux récalcitrants. Exemple, ceux qui ne portent pas le masque dans les endroits publics. Et on va se concentrer sur les... Ça va être partout, mais on va se concentrer surtout sur les zones jaunes. Je vous rappelle les zones jaunes. Capitale-Nationale, ça, c'est la région de Québec, qui n'inclut pas la rive sud de Québec, en passant. Il y a aussi l'Estrie, l'Outaouais et la région de Laval. Donc, particulièrement dans ces secteurs-là, on a demandé aux policiers d'être un petit peu plus, disons, insistants et d'émettre des amendes qui pourraient varier, selon certaines informations, entre 400 et 6000 $. Donc, ce serait des amendes très, très salées. Et là, Jonathan, tout le monde se demande un peu, on est tous un peu dans l'inconnu. Quant à l'automne, à quoi on doit s'attendre cet automne? Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Si oui, quel sera l'impact? Est-ce qu'il y aura beaucoup de cas? Est-ce qu'il y aura un impact aussi sur les services hospitaliers, débordement aux soins intensifs? Il a signé une chronique très intéressante, un texte intéressant là-dessus, dans la dernière édition du magazine L'Actualité. Il est chef de l'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal et chroniqueur à l'actualité, le docteur Alain Vadeboncœur qui est au bout du fil. Docteur Vadeboncœur, bonjour.
Oui, bonjour.
Docteur Vadeboncœur, on va y aller avec l'idée de votre texte. À quoi on doit s'attendre, d'après vous, de façon générale, cet automne avec la COVID?
Bien, plus je vois l'automne débuter, on n'est pas encore officiellement dans l'automne, mais avec ce qui se passe ces jours-ci, je pense qu'on a un bon défi devant nous à l'automne, là, qui va être assez costaud. Peu importe, là, c'est en fait, même si la vague est grosse, moyenne, petite. Déjà, je pense que le défi de gérer les éclosions dans les écoles, tout ce que ça suppose, en fait, d'organisation, de réaction, de suivi des cas, c'est déjà assez costaud et on voit que c'est de plus en plus complexe. Je pense qu'un élément de complexité, puis vous l'avez mentionné, les éclosions sont assez diffuses actuellement. Tu sais, la région de Québec n'avait pas connu ça vraiment à ce point-là. Il y en a un peu partout. Donc, ce que le ministre appelait des feux de broussailles, on dirait qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup d'écoles qui sont touchées. J'ai vu deux chiffres, là, en tout cas au moins 70, sinon plus. Et donc, je pense qu'il y a une complexité là-dedans, là, qui est tout un défi pour notre société.
Ce que j'aime particulièrement de votre chronique dans l'actualité, Dr. Vadeboncœur, c'est que vous déboulonnez certains mythes qui sont véhiculés par les négationnistes, les covidios, les anti-masques, l'appelons-les comme on veut. Puis j'ai envie qu'on en prenne quelques-uns que vous abordez dans votre chronique. Tout d'abord, sur le fait que la pandémie aurait beaucoup, beaucoup ralenti au cours des derniers mois. On avait l'impression, même certains disent, que c'était carrément disparu. Or, quand on regarde la situation mondiale, c'est pas exactement le cas, là.
Ben, je l'ai lu souvent, ça. Hein? La pandémie est derrière nous. Faut oublier ça. Je pense que tout le monde a constaté, là, au Québec, cet été, c'était quand même assez tranquille. Mais bon, j'ai commencé par une vision assez large dans mon texte parce que la pandémie au niveau mondial, elle a pas ralenti, là, au niveau de la... Et donc, on parle encore, puis ça s'est maintenu, là, depuis le début juillet, 300 000 nouveaux cas par jour, ce qui est quand même pas rien, là. Et les décès, en fait, n'ont jamais fléchi depuis tout le début. On parle d'à peu près 5 000 décès. C'est sûr que là-dedans, il y a des pays qui sont améliorés, puis il y en a d'autres qui embarquent puis qui montent graduellement. Là. Mais l'image globale, c'est quand même que le virus circule à peu près autant et en fait, il y a deux à trois fois plus de cas qu'il y en avait au printemps. Si on y va au niveau mondial, à tous les jours. Fait que de ce point de vue-là, c'est clair que ce virus-là continue de circuler partout dans le monde. Puis au Québec, ben, veut pas, on a quand même eu une circulation de virus qui a continué. C'est sûr que les hôpitaux sont assez tranquilles, entre guillemets, je dirais. Mais là, on est quoi, depuis deux semaines dans une certaine hausse. Puis, tu sais, je voyais les chiffres de la région de Québec, le taux de positivité des tests serait passé là, de 1% à 2,9%, je pense que j'ai lu ce matin. Et donc, ça veut dire que, tu sais, c'est pas juste, il n'y a pas juste plus de cas parce qu'on fait plus de tests. Il y a vraiment plus de cas, puis il y a des éclosions. Donc, la pandémie, elle est toujours là. Le virus, c'est le même virus. Et il se propage, si on veut, il continue. Donc, il n'y a rien qui est derrière nous là-dedans.
Bon, c'est ça. Moi, il y a un commentaire que j'entends souvent, Dr. Vadeboncœur, autour de moi, des gens qui nous écrivent ou dans des, ouais, dans des discussions, des conversations. C'est des gens qui disent, « Ouais, mais les gens plus jeunes sont pas touchés, ont pas beaucoup de symptômes. On voit ça depuis le printemps, puis il faut se concentrer à protéger les gens vulnérables, les personnes âgées en CHSLD. Donc, on peut pratiquement se permettre de lever la garde. » Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de commentaires-là?
Bien, d'abord, sur le fond, il y a du vrai là-dedans. Là. Mm-hmm. Et fort heureusement, les jeunes ne sont pas tellement touchés, surtout en bas de 30 ans. Là. Il y a peu de cas graves, il y a peu de très, très peu de mortalité en bas de 30 ans. Au-dessus de 30 ans, par contre, les gens commencent à être plus affectés. 40, 50 ans, je ne sais pas jusqu'à quand on est jeune. Moi, j'ai 57 ans, là, donc est-ce que je suis jeune ou pas? Mais à 57 ans, ça commence à être un peu compliqué là, d'attraper le COVID. Au-dessus de 60 ans, il y a quand même beaucoup de mortalité. Mais c'est vrai que les jeunes sont plutôt épargnés, et tant mieux, parce que tu sais, on n'aimerait pas ça voir que ça touche essentiellement les enfants, puis que ce soit eux qui écopent, certainement pas. Mais il reste que, d'une part, ben, les jeunes propagent le virus actuellement, c'est clair, là, c'est les groupes les plus jeunes qui propagent actuellement. Et donc, en propageant le virus, la pandémie continue. Et le risque, en fait, puis ce qui est assez difficile à empêcher d'arriver, c'est qu'en fait, ces enfants-là ont des parents, ont des contacts, ont des collègues de travail plus vieux. Et donc, il y a une expansion là, vers des gens qui sont plus à risque de complications, puis vers des personnes plus âgées. C'est très difficile, je pense, d'isoler la strate, mettons, des plus de 60-70 ans et de dire, bon, mais ces gens-là sont complètement isolés du reste de la société. Et donc, il ne faut pas négliger l'effet de la propagation parmi les jeunes, qui est réel. Là. C'est ça qui se passe en ce moment.
Quand on parle de déboulonner les mythes, Dr. Vadeboncœur, il y a celui de la comparaison avec la grippe. Hein? Ça, on s'en sort pas, on l'entend. Là, encore, je le vois sur notre messagerie texte. Il y a des gens qui font des références avec la grippe. Quand on parle de chiffres, là, de faits avérés, comment on peut comparer, par exemple, en termes de décès, la COVID à la grippe?
Ben ça, je pense que c'est important, puis je me suis attardé là-dessus dans mon texte, parce que on a toujours cette impression, bon, c'est vrai que les jeunes sont pas mal épargnés par la COVID, là, mais prenons-le globalement. Les décès de la grippe, là, les bonnes années, entre guillemets, là, quand c'est pas trop pire, c'est autour de 200 000 dans le monde, là. Puis les mauvaises années, c'est autour de 600 000, 700 000. Mais actuellement, là, on roule pour la COVID à 5 000 décès par jour, puis on roule comme ça depuis plusieurs mois, là. Puis ça, c'est à peu près, tu sais, c'est 1 800 000 à peu près par année, là. Juste avec ce qu'on a là, c'est au moins trois fois pire que les plus grosses années de grippe qui tuent beaucoup de monde. Ouais. C'est peut-être jusqu'à 7-8 fois pire, 9 fois pire. Fait que c'est pas 1000 fois pire la COVID en termes de mortalité, mais c'est, je veux dire, la grippe, c'est déjà quelque chose qui est assez problématique. Tu sais, pour vous donner une idée, là, tu sais, il y a à peu près 70 millions de décès par année dans le monde, là, de façon générale. Ben, la grippe, tu sais, c'est entre 0.3-1% de ces décès-là, mais là, la COVID, c'est peut-être autour de 3% des décès actuellement. C'est sûr que c'est des personnes âgées, c'est des gens plus fragiles, mais c'est des gens quand même de notre société, là, partout dans le monde. Là.
Autre aspect, Dr. Vadeboncœur, j'entends, je lis des gens qui disent, ouais, mais là, on devrait affronter le virus. On devrait faire comme la Suède. Il faut affronter le virus, il faut développer l'immunité collective, sinon on s'en sortira jamais. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Dr. Vadeboncœur?
Ben, la Suède est un cas que j'ai suivi depuis le début avec une certaine attention parce que ça a été vanté un peu comme un modèle alternatif viable. Et c'est sûr que bon, ben, les Suédois ont peut-être un peu mieux vécu le confinement parce qu'il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas forcé le confinement autant. Mais, tu sais, bon, d'une part, en Suède, c'est pas vrai que c'est rien passé. Là. Toutes les données montrent qu'effectivement, il y a eu beaucoup plus de télétravail, de distanciation, même de port du masque, là, qu'avant. Donc, c'est pas vrai qu'ils ont vécu normalement. La Suède est aussi une société où les gens ont tendance à suivre les directives, donc ils peuvent se responsabiliser assez facilement autour de ça. Mais c'est surtout quand on compare, tu sais, on compare la Suède avec le Québec. C'est vrai qu'ici, on a un peu plus de décès là, par population. Mais tu sais, il faut comparer avec des comparables. Les voisins, là, la Norvège et le Danemark, ont fait beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux là, que la Suède. Il y a 5 à 12 fois moins de décès, puis il y a moins de cas aussi. Puis je regardais, mais là, les gens disent, oui, mais l'économie de la Suède va beaucoup mieux. Bien, ça, c'est pas vrai. Les chiffres montrent que l'économie de la Suède, le PIB, a baissé légèrement plus que ses voisins. Et donc, Tu sais, il y a beaucoup de mythes autour de ça. C'est vrai qu'il y a eu moins de contraintes, c'était peut-être un peu moins difficile à vivre, mais les résultats, il y a beaucoup plus de décès, il y a des cas, et le modèle du point de vue économique, c'est pas si clair que ça là, qu'il y a eu un gros avantage.
Mais j'ai une sous-question là-dessus.
Je prends qu'un grain de sel.
Ouais, j'ai une sous-question sur la Suède, Dr. Vadeboncoeur, ouais. Et sur la comparaison avec le Québec. Ouais. Si on avait un meilleur système de santé au Québec, puis quand je dis meilleur, je parle d'un système de santé avec plus de capacité, plus de place aux soins intensifs, plus agile, plus de lits disponibles, est-ce qu'on aurait pu se permettre d'affronter le virus? Parce que ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'il ne faut pas déborder les soins intensifs. Donc, il y a le confinement, puis on l'explique comme ça. Mais si on avait un système de santé encore plus performant, est-ce qu'on aurait pu se dire, parfait, on y va, on l'affronte, immunité collective?
Ben, je veux dire, d'une part, la notion d'immunité collective, le problème, c'est qu'actuellement, bon, on pense qu'il y a plus de gens qui ont été exposés, qui ont peut-être, qui ont probablement de l'immunité, mais tu sais, c'est pas une grosse partie de la population. Ça fait que, déjà, on est très, très loin d'avoir une immunité collective, puis ça, si on y allait juste sur cette voie-là, le problème, c'est que même avec un très bon système, les gens meurent quand même, là. Tu sais, en Suède, effectivement, c'est un très bon système de santé. Il y a quand même beaucoup plus de décès en Suède, par exemple, qu'en Norvège ou au Danemark. Ici, au Québec, ce qui s'est passé, du point de vue soins intensifs, on est bien organisé, ça a été très bien géré. Le système a été sous tension. Hein. Il y a des moments à Montréal là où il n'y avait plus de lits de soins intensifs disponibles, là, mais ça, tous les patients ont eu accès et les gens ont travaillé extrêmement fort, mais on a passé à travers. On sait que les hôpitaux n'ont pas été surchargés, mais la faille, puis on n'est pas la seule place dans le monde, évidemment, ça a été les CHSLD, et on sait que la mobilité, donc le manque de personnel à la base, a été un gros facteur. Fait que, ça a montré, en fait, certaines faiblesses de notre système, mais du point de vue des soins intensifs, on était quand même à la limite. Hein. Et donc, on peut pas dire qu'on avait trois fois plus de soins intensifs, c'est quand même des patients malades qui rentrent dans les soins intensifs. Là. Et les soins intensifs, ça veut dire, la plupart du temps, une intubation. On parle de soins, tu sais, c'est très dur de passer à travers la COVID et c'est des gens beaucoup plus jeunes que ceux qui sont décédés, là, qui sont dans les soins intensifs. Donc, je pense que je pense pas que la stratégie de dire, bon, mais avec un système de santé avec beaucoup plus de ressources, on aurait pu l'affronter. Je pense que ça aurait été pas mal dur pour tout le monde, y compris les gens et les familles, quand il y a des personnes touchées. Là.
Si on considère notre système de soins de santé comme étant lui-même un patient, j'ai envie de vous demander c'est quoi l'état du patient en ce moment? Parce que on entend dire qu'il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, pas beaucoup de gens aux soins intensifs à cause de la COVID, mais en même temps, la façon de donner les soins a été modulée en fonction de la pandémie, des contraintes de distanciation, contraintes sanitaires, et les réalités d'avant la pandémie, c'est-à-dire une surcharge, un manque de lits, si je me trompe pas, c'est en train de revenir un peu en ce moment. Donc, à l'aube d'une deuxième vague, même si on ne connaît pas l'ampleur de cette vague-là à ce moment-là, comment il se porte le patient?
Bien, en fait, c'est intéressant parce qu'au printemps, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une espèce de traitement préventif pour la partie, disons, hospitalière du système de santé. Donc, les activités ont été fortement diminuées, là, ce qui a certains impacts en soi, bien évidemment. Mais il n'y a jamais eu de dépassement de capacité dans les hôpitaux parce que ça avait été fait. Il faut quand même se rappeler qu'au printemps, les urgences étaient moins congestionnées que probablement durant les 40 dernières années. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait des lits disponibles davantage, etc. Actuellement, un des faits, c'est qu'il y avait moins d'activités normales dans les hôpitaux, des chirurgies normales, donc ça avait été reporté, puis ce qui a amené des retards. Actuellement, évidemment, le défi, c'est qu'il faut reprendre les activités normales des hôpitaux. Et dans le contexte actuel, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a moins de lits disponibles parce qu'on a transformé des lits doubles, des fois, ou même quadruples, en lits simples. Fait qu'il y a moins de lits d'hospitalisation, j'ai pas le chiffre exact. Il y a aussi moins de civières dans les urgences parce qu'à cause des nouvelles façons de faire, c'était difficile d'en conserver autant. Fait qu'il y a un peu moins de capacité. Fait que le défi de l'automne, c'est que reprendre les activités normales, si en même temps ça remonte, mettons que ça remonte comme au printemps, ben ça va être difficile de concilier les deux. Et déjà, les urgences sont pas mal congestionnés. Le mois d'août a été assez difficile. Et donc, évidemment, quand l'hôpital déborde, c'est d'abord sur les urgences qu'on le voit. Et dans un contexte de COVID, des urgences congestionnées, c'est pas évident. Il y a des risques de transmission, il y a des risques d'éclosion, etc., etc. Fait que, tu sais, c'est un gros défi pour le système, là, à l'automne. Même si, par exemple, on contrôlerait relativement bien le nombre de cas, ça va être tendu. Ça l'est déjà actuellement, quand on le voit sur les chiffres de congestion des urgences.
Qu'est-ce que vous pensez des récentes mesures, ce qui a été annoncé entre autres ce matin par le premier ministre Legault, c'est-à-dire qu'on va émettre des amendes à des gens qui ne portent pas le masque dans les endroits publics, on serre la vis un peu plus dans les zones jaunes. Puis tant qu'à ça, qu'est-ce que vous pensez aussi des zones, là, des nouvelles couleurs là, qu'on nous a annoncées selon les régions? Pensez quoi des récentes mesures?
Ben écoute, pour ce qui est des amendes, ça c'est bien connu en santé publique, il y a plusieurs niveaux d'approche. D'abord, il faut informer les gens, il faut que les gens soient bien sensibilisés, il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. Ça, je pense que ça a quand même été fait pas mal, là. Je veux dire, on en parle presque continuellement. Il faut que physiquement les gens aient accès à des masques, il faut qu'ils soient disponibles, donc il faut faire ça, ça s'est corrigé pas mal. Mais effectivement, à un moment donné, comme dans n'importe quoi, ça prend des fois des amendes ou de la coercition, si on veut, pour convaincre ceux qui sont plus, disons, réfractaires. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quoi. La ceinture de sécurité, c'est la même chose. T'sais. On sensibilise, on s'assure qu'il y a des normes qui font que les ceintures sont là, mais à un moment donné, ben effectivement, il y a des amendes qui sont ajoutées. Donc, il y a des personnes actuellement qui sont réfractaires à l'idée de porter des masques, alors que ça fait relativement consensus là, dans la communauté scientifique. Leur dire que ce comportement-là n'est pas accepté par des gestes concrets, moi, je pense que c'est probablement une étape là, qui est importante. Pour ce qui est des couleurs, ben, j'aime plutôt ça. Je pense que ça ressemble un peu aux alertes de feu.
Oui,
ne pas faire de feu dans les régions, c'est assez facile à comprendre. Là, quand c'est vert, tu peux faire des feux de camp et manger des guimauves. Puis quand c'est rouge, ben non, tu fais cuire des choses sur ta cuisinière. Là. Et donc, ça donne deux choses. D'abord, c'est assez facile à comprendre. Et d'autre part, ben ça régionalise. Ça fait longtemps que les gens le voulaient, ça, tu sais. Les régions sont pas toutes pareilles. Puis ça permet de savoir, bon, mais dans mon environnement, c'est comment. Puis, dans le fond, de ne pas appliquer nécessairement la même intensité de mesure puis les mêmes choses partout. Fait que c'est un découpage, je pense, qui est intéressant pour tout le monde, y compris pour les gens qui regardent un peu comment ça se passe autour d'eux.
Quand on parle de l'automne, Dr. Vadeboncœur, une des variables qui est difficile à mesurer, c'est l'impact des autres virus qu'on n'a pas encore vu arriver parce que au printemps, c'était pas nécessairement la période de la gastro, des rhumes, de la grippe et tout ça. On s'entend que ça pourrait venir compliquer les choses. Par contre, je me demandais, est-ce que nos nouvelles bonnes habitudes de rester à la maison quand on file pas, de se laver les mains, le masque et tout ça, est-ce que ça pourrait venir amoindrir l'impact, la présence de ces autres virus-là, vous pensez?
Bien, c'est clair que les mesures qu'on prend, c'est des mesures qu'on fait, mettons, à l'hôpital quand quelqu'un a, je sais pas, une gastro. On se protège, on protège les patients, on se protège entre nous. Et donc, tous les virus se transmettent un peu selon les mêmes mécanismes. Puis il n'y a pas de magie là-dedans. Quand on se lave les mains, quand on porte des masques, quand on est enrhumé, tout ça, c'est une efficacité. Il y a un premier signe, en tout cas, je l'avais pas vu quand j'ai écrit mon texte, mais j'ai vu ça le lendemain. En Australie, qui est dans le fond, ils sont en hiver actuellement, là, donc ils sont dans leur saison de grippe, bien en fait, le mois d'août, il n'y a essentiellement pas eu de grippe. Les chiffres sont assez impressionnants. Là. L'an passé, au mois d'août, il y avait 60 000 cas de grippe en Australie là, confirmés. Cette année, il y en a une centaine. Donc, il y a eu un effondrement de la grippe. À quoi elle est due? Ben, il y a des fortes probabilités que ce soit dû au fait qu'un virus moins contagieux que la COVID, la grippe est un peu moins contagieuse, là, a beaucoup de difficultés à, si on veut, se propager dans un environnement où on a des mesures comme ça. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'effectivement, si la grippe arrivait en même temps que la COVID, mettons une grosse année de grippe en plus, déjà, les années de grippe, c'est très dur pour les hôpitaux, le système de santé, les patients. Et là, si on peut s'épargner ça, ben ça serait une bonne nouvelle. Tant mieux, c'est un signal. En tout cas, en Australie, il n'y en a pas de grippe ou pratiquement pas, ce qui est assez particulier. Là.
Merci beaucoup de nous avoir parlé, Dr. Vadeboncœur.
Grand plaisir. Bonne journée.
Au revoir. Docteur Alain Vadeboncœur, qui est chef d'urgence à l'Institut de cardiologie de Montréal, chroniqueur pour l'actualité. Je vous le dis, allez lire ça, c'est intéressant.
C'est un très, très bon
texte. Oui. Puis lui, écoute, il n'est pas allé à l'Université de la vie. Là. C'est un vrai médecin, là. Chef d'urgence à l'Institut de cardiologie.
Il n'est pas allé à l'Université Cossette-Trudel?
L'Université YouTube, non, c'est pas ça. Ça s'appelle « Les défis covidiens de l'automne qui vient ». Donc,
appuyer sur des chiffres réels, des statistiques.
Exact. Puis moi, ce que je retiens, puis on l'entend beaucoup, là, bon, la fameuse comparaison avec la Suède, puis bon, affronter le virus. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire pendant l'entrevue qui me dit « Ouais, mais il faut l'affronter, le virus. Il faut renforcer notre système immunitaire. » Puis, OK, mais on fait quoi avec les gens qui ont pas ou très peu de système immunitaire? On fait quoi avec les gens qui ont des problèmes respiratoires, qui sont fragiles? Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille là, qui est asthmatique, là, puis c'est très, très sérieux. Déjà failli mourir en faisant des crises et On fait quoi avec les gens qui ont un système immunitaire affaibli? On fait quoi avec les personnes âgées? Là? Je comprends le principe, là, d'essayer de développer l'immunité collective, puis d'affronter, puis... Mais est-ce qu'on le fait au prix de contaminer des gens vulnérables? C'est-tu ça, le calcul? Ben beau dire, là, hein, moi, j'ai pas peur, puis on va l'affronter, puis je vais le pogner, puis il faut tout le pogner, puis... Moi aussi, à un moment donné, juste cette réflexion-là, puis je me suis dit, garde, on va tous mettre tout le pogner, mais on fait quoi avec les gens plus vulnérables qui n'en ont pas de système immunitaire? On les laisse crever les autres. Hein? C'est tout ça qu'on fait? Ou... C'est ça qu'il n'y a pas de bon sens dans ce raisonnement-là.
Oui, je vais poser une question à un auditeur, parce que beaucoup de bonnes réactions, mais aussi beaucoup de réactions, là, le discours qu'on commence à être habitué, là, qui frôle la violence verbale.
Oh, puis... oui. Oh.
Et là, on a un auditeur qui dit « Je m'en fous! Tu m'obligeras pas à m'isoler parce que je coule du nez ou porter un masque à l'hôpital quand ma femme va accoucher. » OK, décortiquons ça. Il n'y a pas personne qui a dit qu'il fallait qu'il s'isole parce que son nez coulait, premièrement.
Non.
Je pense que c'est assez clair. Ouais. Si tu fais de la fièvre, si tu tousses, si tu as mal partout, si tu as des symptômes qui peuvent s'apparenter à COVID, on te demande de rester chez vous.
Si tu n'as plus l'odorat,
c'est ça. Et là, tant mieux si le gouvernement dit on va vous donner des amendes si vous ne le faites pas. L'autre chose, c'est qu'il dit tu m'obligeras pas à porter un masque à l'hôpital quand ma femme va accoucher. Moi, je vais prendre cet exemple-là. Ma conjointe met au monde des bébés.
Ouais.
C'est ça sa job.
Ouais.
Fait que si toi, le tarlat, là, tu décides que tu mets pas de masque parce que ta femme va accoucher, puis fouille-moi pourquoi ça te dérange, là. Puis que tu donnes la COVID à ma blonde, puis que ma blonde avoue mon père qui a des gros problèmes de santé, puis qu'elle donne la sacrament de COVID, puis qu'il crève, tu vas-tu te sentir intelligent, le tarlant?
Puis que ta blonde peut travailler.
Excuse-moi, mais moi, ma blonde et ses collègues, et là, le système de santé qui déjà est à risque d'être surchargé, va manquer d'effectifs. C'est-tu un bel exemple de nombriliste, ça? Hey, tu m'obligeras pas à mettre... Tu sais, l'idiotie, là.
Exact,
lui, ce gars-là, c'est la chronique à facale.
C'est en plein sur l'idiocratie, c'est exactement ça. Puis ça, c'est l'autre point. Tu sais, c'est qu'aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui ne seront pas contents. Je vois déjà les réactions, réseaux sociaux, tout ça. C'est pas le fun, les amendes. Ce qui a été annoncé ce matin par le premier ministre Legault là, avec M. Dubé. Là. C'est pas le fun là, d'entendre que les policiers dans les zones jaunes comme Québec, Laval, l'Outaouais, l'Estrie vont se promener en distribuant des amendes à ceux qui ne portent pas le masque. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Mais ces idiots-là, j'aime mieux qu'ils payent, j'aime mieux que ces gens-là payent plutôt qu'on en arrive à la fermeture des écoles, des arénas, des gymnases, des centres sportifs et des commerces et des bars. On veut pas aller là. Il faut pas aller là. Fait que j'aime bien mieux qu'on fasse payer les idiots là, pour l'instant. Là. Ceux qui comprennent ni rien, ni du cul, ni de la tête, là, plutôt que de faire fermer l'économie puis de mettre le Québec sur pause, encore une fois. Là. OK, on s'arrête 11h26. Au retour, restez là. Restez avec nous. Manquez pas ça. La vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui va nous expliquer les nouvelles mesures, les nouvelles amendes, en fait.